Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Le climat dans lequel on va vivre maintenant est dû à ma génération. C'est pour ça que moi, souvent, je dis pardon, toi. On ne savait pas, mais on est responsable. Et c'est pour ça que c'est à nous de changer d'abord. C'est pas demander aux enfants et aux Greta de porter le poids du monde. C'est tous les vieux cons que nous avons été.
Pour cet épisode de Vieilles Branches, je suis allée sur le bureau de la Fondation Good Planet sur les quais de la Seine. Alors je dis sur parce que c'est une sorte de petit entrepôt qu'on pourrait prendre pour une péniche, que j'ai clairement pris pour une péniche. C'est là qu'on a rencontré Yann Arthus Bertrand, le photographe, réalisateur, homme qui a regardé la Terre depuis le ciel pendant fort longtemps et qui a justement donc créé cette fondation. Il faisait chaud, mais on entendait la Seine. On nous a montré, juste avant qu'on commence l'interview, le clip du nouveau morceau d'Angélique Kidjo, réalisé par Yann Arthus Bertrand. Bref, on sent qu'il est encore dans 1000 projets, que ça bouillonne. Mais il a vraiment pris le temps pour nous raconter, en étant, je crois, le plus sincère possible. C'est cette transparence, cette envie d'être au plus près de la vérité, sans faux-semblant, qui est assez touchante et qu'on retrouve d'ailleurs dans son film Legacy, qui est sorti en janvier.
Plus de 70 ans.
C'est très bien. J'assume mon âge complètement.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout,
je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Yann Arthus Bertrand. Bonjour Yann Arthus Bertrand.
Bonjour, bonjour.
Merci de prendre un peu de temps pour moi. Yann, vos livres ont été exposés sur de nombreuses tables basses dans le monde entier, y compris la mienne. Je crois que je pourrais reconnaître à 100 mètres une photo de la Terre vue du ciel tellement je l'ai feuilletée gamine sur le canapé familial. Vous avez mis depuis presque toujours, encore qu'on y reviendra, votre sens de l'image au service de la planète, dans un premier temps pour qu'on voit sa beauté, et depuis un peu moins longtemps pour alerter sur l'urgence climatique absolue que nous sommes en train de vivre. À la tête de la Fondation Good Planet, vous avez parfois été accusé de faire de l'écologie de salon un peu facile, puisque vos photos, vous les preniez du ciel. Mais depuis 2019, vous avez cessé de prendre l'avion, et en janvier dernier sortait sur M6 votre dernier film, le plus intime, Legacy, refusé par France Télévisions, qui avait pourtant diffusé tous les autres, parce que trop pessimiste, parce que surtout il confronte à la réalité de l'urgence que nous vivons, et que c'est dur d'y faire face, il faut un petit peu de courage. Legacy, ça montre votre cheminement personnel aussi, un petit peu en filigrane derrière, à laquelle tout le monde, je pense, les convaincus comme ceux qui n'ont pas encore fait la route, peut s'identifier. Mais avant de venir à ce sujet qui est une musique d'ambiance de plus en plus forte dans nos vies, on va parler un peu de vous, Yann Arthus Bertrand. Je voudrais d'abord savoir comment est-ce que vous avez vécu ces 18 derniers mois, en tant que personne plus toute jeune, en tant que vous-même, et puis aussi en tant que proche d'une personne fragile. J'évoque le sujet tout de suite puisque votre femme est atteinte de la maladie de Parkinson et que ça fait partie des personnes qui étaient considérées comme fragiles.
Tu veux me faire pleurer tout de suite,
ouais,
dès le départ.
C'est ça, c'est parti.
Sympa. D'abord, Legacy avait été refusé par toutes les chaînes. Sans doute qu'on l'avait mal vendu. Et même nous, quand on a commencé le film, on a trouvé que le film était déprimant. Et on a vraiment essayé d'amener de l'espoir et de parler d'humour et d'amour d'ailleurs. Donc il a été refusé par France Télévisions, refusé par Canal, refusé par TF1, donc refusé par tous. Et merci à M6 de l'avoir pris. Mais c'était pas un film facile à faire. On pensait le faire en 3 mois. Et on a fait 1 an et demi pour le faire. Donc, on a refait. C'est compliqué de faire un film sur une catastrophe annoncée tout en gardant le moral. Voilà. Mmh. C'était quoi la question ?
C'est comment est-ce que vous avez vécu cette année ? Vous avez un petit
Alors,
peu
j'ai vécu le confinement avec mes petits-enfants, plutôt pas mal, qui au début n'avaient pas le droit de me voir et me faisaient des signes par la fenêtre. Au bout d'un mois, après, on était tous ensemble, on s'embrassait, on avait tout oublié, mais le premier mois était assez compliqué, surtout que j'avais attrapé le Covid. J'ai fait la cuisine, que j'avais jamais fait la cuisine pour ma famille, pratiquement jamais. Et là, comme mes petits-enfants et mes enfants faisaient l'école, ils ne pouvaient pas faire la cuisine, ils commençaient à 13h. Donc tous les jours, j'étais sur marmiton.com pour faire des choses. Et j'ai adoré ça. C'est un peu con ce que je vais dire, mais j'avais encore peut-être jamais compris le plaisir qu'on peut avoir à faire une cuisine avec amour aux gens qu'on aime. Voilà, c'est un peu quelque chose qu'on offre.
C'était quoi votre plat signature du coup pendant le confinement?
J'ai tout fait, le risotto, le pain, j'ai fait beaucoup de pain.
Vous avez partie de ces gens-là qui ont fait leur propre pain. La mort des boulangeries qui étaient pourtant les rares ouvertes.
Voilà, et surtout, alors il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que je me suis beaucoup promené dans la forêt. J'ai de la chance d'habiter près de la forêt. Et qu'en fin de compte, la beauté et l'harmonie de la forêt. C'est-à-dire quand tous ces plantes qui vivent ensemble d'une façon harmonieuse, en fin de compte, la beauté essentielle, elle était tout près de chez moi. Moi qui ai passé ma vie à chercher la beauté autour du monde, en fin de compte, elle était là. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand je suis rentré à Paris, je trouvais tout moche, mais très laid. Les routes, les bagnoles, les magasins. Et je trouve que les villes sont moches par rapport à la nature, quoi, à la nature sauvage.
Et depuis pas longtemps.
Mais ça m'a surpris, parce que quand tu te promènes tous les jours dans la forêt, pendant 2 mois, et surtout on a vécu, c'était incroyable le temps qu'il faisait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un temps inouï, on est parti, il n'y avait pas une feuille, et puis quand on est parti, c'était tout vert, donc on l'a vu pousser tout ça, et donc c'était, voilà, j'ai beaucoup parlé à mon chien, j'ai d'abord parlé à ma femme, je devrais dire, d'abord surtout, mais j'ai beaucoup parlé à mon chien qui était très étonné de lui parler tout le temps, que je prenais tout seul dans la forêt, j'avais pas le droit d'y aller. Je me suis fait arrêter par les gendarmes. Je leur ai dit, écoutez, ça va, c'est bon. Il y a 15 000 hectares de bois. Vous n'allez pas me faire une contravention. Je suis dans la forêt, quoi. C'était un peu ridicule pour le confinement, faut reconnaître.
Yann Arthus Bertrand, est-ce que vous pouvez me raconter vos tout premiers souvenirs d'enfance? Peut-être un son, une odeur, une image, un truc.
Alors, premier souvenir d'enfance, pas très intéressant. C'est un tricycle rouge que m'a donné mon arrière-grand-mère.
Elle était vivante, j'avais
5-6 ans, voilà, oui. Mais je la connaissais pas bien, je l'ai jamais connue, elle était assez éloignée, elle était grande bourgeoise. Non, je la connaissais pas bien, et j'ai pas eu le temps de la connaître. Elle devait avoir 5-6 ans, un truc comme ça. Et après, les souvenirs d'enfance que j'ai avec mes familles de 6 enfants, dans des grandes déconnades, dans un grand appartement à Paris, où on se faisait engueuler tout le temps parce qu'on faisait un bruit d'enfer. Voilà, pour les voisins, mes parents, 6 enfants déchaînés, ça fait du bruit. Voilà.
Vous avez grandi au milieu des bijoux, des médailles, puisque je l'ai appris en préparant votre interview. La maison Arthus Bertrand, elle a été fondée en 1803.
Tiens, regarde, prends le livre qui est là-bas, le premier livre qui est là, sur la pile. Le premier livre qui existe, voilà, le premier livre.
Oh là là,
voilà.
C'est beau, hein.
Oui, oui.
La maison Arthus Bertrand, elle fait les médailles de la Légion d'honneur, elle grave le collier de la Légion d'honneur.
Et là, ce livre que vous avez pris, là, c'est un livre des voyages, c'est mon arrière-arrière-grand-père, était éditeur, avant qu'il soit bijoutier et qu'il faisait des médailles, il faisait des livres, c'était un peu le géo de l'époque, et quand les bateaux partaient faire des grandes expéditions, mon arrière-arrière-grand-père faisait exactement ce que je fais, ce qui est assez étonnant, il expliquait le monde tel qu'il était, et ça c'est un livre que on a scanné des pages dans les musées, dans les bibliothèques.
Mais il est trop beau, pardon de vous couper.
C'est magnifique, hein. C'est un livre qu'on a fait pour la famille, les dessins sont incroyables. La qualité des dessins, des oiseaux, c'est un peu, quand on dirait un peu du bon. C'est magnifique, c'est superbe.
Et justement, ça fait quoi d'appartenir à une famille comme ça, qui a une histoire, un savoir-faire aussi, il y a quelque chose d'un petit peu...
Rien du tout. Ça ne m'intéressait absolument pas.
Mais vous avez rigolé, vous êtes surpris quand vous avez découvert qu'en fait, 120 ans avec vous, votre arrière-grand-père.
Ah oui, non, mais c'est comme mon père est mort, j'ai reçu des livres qui gardaient chez lui précieusement, et ils n'en parlaient pas. Ils n'étaient pas du tout intéressés par ça, alors que moi, bien sûr, ça me passionne.
Ah oui,
Oui, fortement, des livres. Il a fait 200 ou 300 livres sur des voyages incroyables en Australie. Et ce qui est assez fascinant, et ce que je raconte dans mes conférences, c'est que les animaux qu'on voit là, pratiquement tous, ils existent encore. Et que les animaux que j'ai photographiés, moi, c'est pas évident que mes petits-enfants pourront les voir encore dans 20 ou 30 ou 40 ans. Les lions que j'ai étudiés, qui étaient, tu vois, 400 000 dans les années 80, ils sont 20 000 aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, il y a une perte de la biodiversité absolument invraisemblable.
Et ceux-là, par contre, non?
J'ai vérifié, j'ai regardé avec un naturaliste. Ah bon, il y a quelques oiseaux qui ont disparu, le fameux dodo de l'île Maurice, mais en gros, tous les oiseaux qui sont là existent encore. Voilà.
Vous étiez quel genre d'adolescent?
Très très con, très 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 très. J'étais en colère contre les adultes Je détestais l'école. On s'imagine pas ce que c'était que l'école à cette époque-là. Moi, j'ai des écoles qui portent mon nom en France, et quand je vois les écoles, quand je vois comme les gosses sont les heureux, les maîtres sont attentifs, comme les écoles sont gaies. Moi, les écoles d'une tristesse. J'avais une blouse grise quand même. On avait une blouse grise, tous en ligne, pas le droit de parler. C'était pas terrible, et je détestais l'école. Et donc, et j'étais très bagarreur, et je me bagarrais avec les profs. Mais j'avais 12, 13 ans, ouais, je me bagarrais avec les profs. J'avais peur de rien. C'était une façon pour moi aussi d'exister, quoi, dans mes copains. Et il y a très longtemps, je faisais pratiquement deux écoles par an. J'étais viré. C'était un drame.
Un drame.
Ah oui, et c'est drôle parce que quand j'ai mon fils, j'avais qu'une peur, c'est qu'il soit comme moi. Je rêvais d'avoir une fille, et j'ai pas une fille, j'ai eu un garçon.
Et
en fin de compte, il est pas du tout comme moi. il était tout à fait un adolescent normal avec ses crises d'adolescence, mais pas cette brutalité, je détestais le monde des adultes.
Ah ouais.
Ouais.
Et pourtant, vous êtes rentré très vite dans ce monde des adultes, parce qu'à 17 ans, vous étiez assistant réalisateur.
Ouais, j'ai une période entre 16 et 20 ans qui était très trouble, où je vivais un peu dans la rue. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que j'en aurais honte, mais j'ai vraiment fait que des conneries. Et alors, ce truc est drôle.
Et des films, des conneries et des films.
Oui, des films.
Yann Arthus Bertrand était acteur, pour ceux qui ne le savaient pas.
Quand on a comme ça devant soi aucun avenir organisé, prévu, quand vous avez un diplôme, vous savez où vous allez aller un petit peu. Moi, j'avais zéro diplôme. Donc, on est très opportuniste et on passe pas à côté de sa chance. Et je le dis tout le temps. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est jamais... J'essaye de pas passer à côté de ma chance quand elle est là. Et la chance, elle passe toujours. Et je me souviens, on était avec des copains. Moi, j'adorais le cinéma. Et on dormait dans la rue. Dans la rue, quand on se débrouillait. Et on dormait les grands cinémas. On rentrait par la porte de sortie à 11h30, la dernière séance. Et on s'endormait entre les sièges. Et c'est comme ça que j'ai vu Citizen Kane une vingtaine de fois. Et Le Fanfaron, qui était un film qui m'a beaucoup marqué. Victor Gassman et Trintignant. Donc j'aimais le cinéma et je voulais devenir acteur, quoi. C'était un peu people, star. Et donc je vais à Boulogne, au studio de Boulogne, à côté d'ici. Il tournait. Faut imaginer qu'est-ce que c'était. Il tournait Fantomas, t'imagines, avec Jean Marais. Vous savez même pas ce que c'est.
Si, Fantomas quand même.
D'accord, bon. Et donc, on regarde comme ça de loin. Puis à un moment, il y a un gars qui me dit, tu veux pas balayer? Ben, je dis oui. Alors je balaye. Il m'a donné un petit peu d'argent. Parce aussi à cette époque-là, on était payé en cash. Génial. Tu rentrais. Il y a pas le problème d'aujourd'hui avec des charges sociales. Et donc, j'ai traîné un peu au studio de Boulogne. J'y suis resté pendant presque un an. J'ai rencontré un couple d'amis formidable, Pierre Calfon et Georges Chapdelaine, qui m'ont fait travailler, que j'aimais beaucoup. Et un jour, j'étais assistant de baratier, j'ai fait plein de choses. Puis un jour, il y avait un rôle, ils vous cherchaient des acteurs pas très connus, il y avait un casting, et bon, puis ils m'ont pris, voilà, et je me suis retrouvé à Saint-Tropez en jouant un film avec Michel Morgan. Et surtout, moi, j'ai vraiment pas pris ça au sérieux, je travaillais absolument pas. Je savais pas très bien mon texte, mais enfin, j'avais pas un texte très important non plus. J'espère qu'on retrouvera jamais le film, parce que je dois être très mauvais. Mes enfants rêvent de le retrouver, mais...
Et il est inconnu au bataillon.
Il s'appelle « Dis-moi qui tu es ». Ouais. Tu es, T-U-R. J'avais un bon salaire. À mon avis, j'ai dû gagner en un mois ce que gagnait mon père pendant un an. Et je l'ai bouffé dans le mois. Voilà. J'avais loué une voiture américaine avec un chauffeur décapotable à 18 ans, quoi. Et j'avais imité aussi la signature de mon père, parce que on était majeur à 21 ans à cette époque-là. Et donc, j'avais imité, voilà, pour pouvoir faire.
Et le service militaire, alors?
C'est une autre histoire. D'abord, je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami, avec qui je suis parti vivre pendant une dizaine d'années. Et c'était une histoire magnifique. J'avais exactement la même différence d'âge que le couple Macron. Et j'étais très heureux, très amoureux. Elle m'a fait confiance. Et ensemble, on a créé une réserve zoologique. Et ce qui est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris à ce moment-là que...
Donc ça, c'est en 67. C'est quand vous partez vivre dans un parc animalier.
C'est vous qui le dites, ça.
Ok.
J'avais 20 ans.
J'ai pris un peu... Je me suis perdue. Vous êtes tombé amoureux de la mère de votre meilleure amie et vous décidez de partir créer un parc animalier.
Partir vivre avec elle, chez elle, dans l'Allier. Voilà. Ouais. Et elle avait une grande propriété, pas d'argent du tout, mais un château qui tombait un peu en ruine. Et il fallait vivre. Et donc, on a créé... Elle était passionnée d'animaux. C'est vraiment elle qui m'a donné ce virus. Et je me souviens très bien de me prendre. Elle avait une réserve de chasse au début, donc elle avait des sangliers apprivoisés, des cerfs et des biches apprivoisés. Elle avait beaucoup d'animaux. Et ça m'a passionné. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des moments dans votre vie où, d'un seul coup, une espèce d'illumination, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, quoi. Ça m'intéresse, ça me passionne, parce que on ne sait pas ce qu'on veut faire. C'est très, très difficile de trouver dans la vie quel est le sens que vous donnez à votre vie, en quoi vous allez être bon, où est-ce que vous allez être à votre place. Ce n'est pas facile de savoir où est-ce qu'on est à sa place. Et là, je me suis aperçu, quand j'avais 20, 21 ans ou 22, je me suis aperçu que j'étais vraiment à ma place. Et donc voilà, on a...
C'est une chance assez inouïe d'ailleurs.
C'est la chance, mais en même temps, j'étais en recherche de ça. Donc c'est une chance, mais comme j'étais à la recherche, je cherche. Donc quoi tu trouves ? Il y a des gens qui ne cherchent pas. Toi, tu es dans un schéma classique où on dit tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et tu ne cherches pas en fin de compte. Moi, j'étais vraiment à la recherche parce que j'avais rien. J'avais un avenir devant moi qui était bloqué. J'étais un très mauvais acteur. Et après avoir fait le film Dis-moi qui tu es, j'ai failli faire le Grand Mône d'Albi Coco. Donc j'avais déjà fait des tests. Je n'étais pas mauvais acteur, mais enfin, j'étais un acteur comme les acteurs de cette époque-là. Je ne dis pas que j'étais de long, mais je faisais des cours après, mais j'étais vraiment un acteur instinctif. Quoi, voilà. Donc, et je n'étais pas bon. Ce n'était pas mon truc en plus. Voilà.
Et votre meilleur ami dans tout ça, il l'a
mal pris.
Mon
meilleur ami, il l'a mal pris pendant 2 ans et après, on est devenu très très proche. Il vient de disparaître malheureusement et je suis parrain de son fils. Donc voilà,
l'histoire est restée
belle. Oui, voilà.
C'est incroyable. Et donc vous êtes arrivé dans ce parc animalier que vous avez.
Non, on a créé,
quoi.
Oui, et là-bas, on était spécialisé dans les animaux qui étaient imprégnés. Quand on dit imprégnés, on disait apprivoisés à cette époque-là. C'est l'époque aussi. Assez incroyable, où les gens pouvaient ramener une panthère en France, ramener des singes en France. Je me souviens, on commandait des animaux par des fax, les animaux arrivaient dans des caisses, tu vois, à l'aéroport, on allait chercher. Il n'y avait aucune limite, on pouvait tout acheter, les animaux sauvages, il n'y avait aucune régulation. Et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient des animaux, et donc j'ai commencé à pas mal d'animaux que les gens, un puma apprivoisé, une panthère que les gens avaient ramené, un chimpanzé.
Et qu'ils ne gardaient pas, du coup.
Voilà, donc j'avais beaucoup d'animaux. Et on était un peu spécialisés dans les animaux imprégnés, élevés par l'homme. Et les gens voulaient. Par exemple, j'avais élevé des lions à Thoiry. Ils avaient beaucoup trop. Le zoo de Thoiry avait beaucoup trop de lions. Ils tuaient les bébés. Et donc, nous, on ramassait les bébés 2 ou 3 jours. On les élevait avec du colostrum de chèvre. Le colostrum, c'est le premier lait. Voilà. Et je vais élever comme ça une dizaine de petits lions avec qui je. Après, ils étaient grands. Je rentrais dans le parc. Je me roulais avec eux. Bien sûr, les gens trouvaient ça formidable. J'étais très content.
C'est un rêve, un petit peu.
Voilà. Ouais, c'était un peu le. Voilà, je jouais un peu à Daktari et j'adorais ça, je dois reconnaître.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Parce que la suite de l'histoire, c'est que vous partez au Kenya avec celle qui est devenue votre femme après.
Mais l'histoire, la première histoire d'amour s'arrête. Je pars d'ailleurs avec beaucoup de regrets. Et avec aujourd'hui, je me dis, j'ai un peu abandonné tous les animaux que j'avais élevés là-bas. Il me fallait que je parte, ça marchait plus. Je voulais vivre autre chose. Voilà, j'ai pas forcément été très très bien à ce moment-là en partant, en abandonnant tout, en abandonnant les animaux et cette femme qui m'aimait. Bon, voilà, c'est un choix que je l'ai pas fait force. Je le ferai plus comme ça aujourd'hui, en tout cas. Je le ferai d'une façon différente. Et puis je rêvais moi de m'occuper d'animaux et donc devenir scientifique. Et Pierre Feffer, qui était professeur, qui était patron du muséum. Et à cette époque-là, le patron du muséum dirigeait aussi le zoo de Vincennes et le parc jardin des plantes, que je connaissais un petit peu parce qu'on a fait des échanges d'animaux ensemble. Je lui ai dit, écoute, j'adorerais étudier les lions et j'aimerais passer un doctorat, une thèse sur le comportement des lions au Kenya. Il me dit, en France, on peut passer un doctorat, une thèse, si tu as un directeur de thèse qui l'accepte.
Si sans diplôme
au zéro diplôme. Alors, je ne sais pas si on peut le faire encore, mais si tu passes une thèse à 80 ans, si tu as zéro diplôme, et que tu es paysan, que tu as envie de t'amuser, de travailler sur quelque chose que les gens ne connaissent pas. J'avais vraiment une connaissance, je pense, des animaux. Des lions que peu de gens avaient. J'avais en plus entre-temps, j'avais été guide pour touristes un peu au Kenya, et donc il a accepté comme directeur de thèse. Et je suis parti avec ma femme Anne, qui est partie comme les femmes ont le courage de le faire souvent, où elles abandonnent tout, elles partent
elle
avec leurs enfants.
Elle avait déjà des enfants.
Elle avait deux enfants, deux petits garçons que j'ai trouvé tout faits, qui s'appelaient Baptiste et Guillaume, qui sont mes enfants, et vraiment mes enfants. Et elle est partie là-bas, bon, c'est un peu compliqué avec les familles, mais ça s'est fait. Et elle a ce courage quoi, d'abandonner par amour. Les hommes ne sont pas capables de faire ça.
Justement, c'était la question que j'allais vous poser, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, ça, qu'il n'y a que les femmes qui sont capables comme ça de tout abandonner. Pas l'inverse, est-ce que vous croyez pas que c'est aussi un peu parce qu'on dit aux hommes depuis qu'ils sont tout petits que s'ils font passer les désirs d'une femme avant les leurs, c'est qu'ils c'est pas des vrais hommes. Il y a un côté comme ça, c'est un truc...
Attends, alors non, pas si tu veux, mais moi j'ai fait un film qui s'appelle Woman, où pendant 2 ans, j'ai écouté des milliers d'interviews de femmes, et c'est vrai que ma vision des femmes a beaucoup changé en écoutant ces femmes. Je pense que les femmes ont des... On va en parler après, mais ont beaucoup plus d'épreuves à passer que les hommes, beaucoup, beaucoup plus. Et, mais... Moi, je suis quelqu'un qui décide, qui va en avant, et je pense que ma femme avait confiance en moi. On n'avait pas un sou, on partait au Kenya, mais elle est partie, disant et avec lui, on ira quoi. Je suis quelqu'un qui est décidé, qui est opportuniste, qui travaille beaucoup. Donc voilà, elle avait confiance en moi, puis elle était amoureuse. Et tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais
j'ai hâte.
Non, mais j'étais, oui, j'étais un homme de la famille, quoi. J'étais le responsable. Et puis avec le recul, tu vois, je m'aperçois que ma femme a fait bien plus que moi pour les enfants, sur le fond, tu vois, pour la famille. Donc je le sais. Mais à ce moment-là, j'étais quelqu'un aussi obsédé par mon travail, comme je suis encore aujourd'hui, ou peut-être, et je suis pas fier, où la famille passe est mélangée avec le travail et tout ça. Il n'y a pas de chose plus importante que le travail, et sa famille aussi, c'est mélangé. On me le reproche assez à longueur de
temps,
ma famille, oui. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, et c'est étonnant parce que moi j'ai 3 garçons qui ont tous des enfants, et ils sont bien meilleurs pères que moi, quoi.
Parce que c'est plutôt une évolution qui va dans ce sens-là, effectivement.
Oui, et ils partagent beaucoup plus les choses avec leur femme qui travaille. Voilà, donc c'est pas la même chose. Et tous les jeunes autour de moi qui ont entre 30 ans, qui ont des enfants, s'occupent de leurs enfants d'une façon formidable, bien mieux que moi.
Et est-ce que, justement, en réalisant Woman, qu'est-ce que vous... Enfin, c'est un peu trop question, mais...
Tu passes directement, là.
Je m'en fiche.
Ah, bah d'accord. Non, d'accord, bah, tu t'en fiches, t'as raison. Vas-y, continue.
Non, mais vu que c'est un truc que vous avez beaucoup dit au moment où vous êtes parti au Kenya, que votre femme, elle avait tout abandonné pour vous, et que c'est un truc que les femmes font, est-ce que vous, en réalisant Woman, donc on n'est pas exactement chronologique dans cette interview, vous avez découvert des choses que vous n'imaginiez pas, que vous ne...
Alors bien,
sur, sur les vies
ben
des
moi
femmes.
J'avais une d'abord j'ai des je le dis toujours avec émotion, mais c'est vrai que j'ai découvert que la personne qui avait le plus important pour moi, c'était ma mère. Pour moi, mon père était la personne qui ramenait l'argent à la maison, qui dirigeait, en fin de compte, qui avait l'autorité chez moi. J'avais une mère qui était très sous le pouvoir de son mari, très amoureuse. Et tout était en attente de ce que voulait son mari. Et mon père est très autoritaire, et c'est lui qui dirigeait la maison. J'ai repensé que c'était mon père qui, en fin de compte, en regardant toutes ces interviews, toutes ces femmes qui parlaient de leurs enfants, de leur responsabilité, je me suis aperçu que c'était ma mère, c'est mon mère qui m'a fait plus que mon père, et je le regrette.
Et ça, c'est un apprentissage que vous avez fait en faisant ces interviews.
À 73 ans, tu vois. Donc, on peut devenir moins con à 73 ans. Moi, j'ai entre ces interviews de beaucoup, beaucoup de femmes, une espèce de résignation, de ne pas travailler, de ne pas exister en tant que femme, et d'être toujours, d'avoir été formée. Je pense pas que j'ai vraiment été élevée comme ça, même si, parce qu'on était comme... Ma mère avait son caractère, elle a connu qu'un homme dans sa vie, quoi, j'en suis sûr.
Woman, ça fait partie de la série de films que Yann Arthus-Bertrand réalise depuis quelques années, où il va à la rencontre de gens dans le monde entier. Il y a aussi Human, qui est sorti il y a 18 mois à peu près, et qui est surtout disponible gratuitement sur YouTube. Yann Arthus-Bertrand y tient. Il a récolté pour ce film les témoignages de plus de 2000 personnes dans 65 pays sur des questions universelles. Il a en quelque sorte mené un chemin parallèle mais contraire à celui de son grand ami Sebastião Salgado, qui après avoir photographié les humains dans les situations les plus extrêmes pendant des années, a arrêté de les regarder pour se concentrer sur la nature. Alors si vous voulez vous faire un programme croisé Yann Arthus-Bertrand, Sebastião Salgado, regardez donc Human puis Le sel de la terre, documentaire de Wim Wenders consacré à Salgado. Alors on en revient au lion.
Et au lion.
Et au lion. Vous dites que les lions vous ont appris beaucoup.
Mais au lion, par exemple, c'est intéressant parce que aujourd'hui dans le Masai Mara, à l'endroit où je travaillais, les lions qui sont dans le parc aujourd'hui, donc 40 ans après, c'est les descendantes des lions qu'on a étudiés. Les lions ne sont que des hôtes de passage. Les lions, le territoire leur appartient tout le temps. En gros, quoi. Et les lions se battent pour rentrer dans le groupe et ils vont être nourris. ils vont pouvoir faire l'amour, ils vont pouvoir... Et souvent, ils tuent les bébés, les lionceaux, afin que les nouveaux lionceaux soient de leur sang. Un des principaux prédateurs des lionceaux, ce sont les lions étrangers qui veulent rentrer dans le groupe et qui vont essayer de tuer le lion qui est en place. Il faut savoir que un lion en liberté, il n'y en a que 10% qui atteignent 10 ans. Donc c'est vraiment une vie extrêmement compliquée d'être un lion mâle et d'exister. Voilà, ça c'est pour les femmes. Et ce que j'ai appris là-bas, d'abord j'avais demandé à Pierre Pfeffer l'autorisation, j'ai toujours adoré la photo, de faire la thèse. Très vite, ça m'a passionné de faire des photos, et très vite surtout, j'étais montré des photos à Géo, Figaro Magazine, Paris Match, et donc ils étaient très intéressés par les photos, donc je me suis dit, je vais essayer de faire ma thèse en partie en photographie, et ma femme fera les textes. Et elle a fait ça très sérieusement. Elle a fait une licence, un doctorat de lettres par la suite, donc tu vois, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup l'écriture, qui avait une très bonne orthographe, ce que je n'ai pas du tout. Donc pour moi, c'est dur d'écrire, j'ai beaucoup de mal à écrire. Et voilà, donc j'ai devenu photographe là-bas, vraiment, je me suis senti devenir photographe professionnel sur place, et c'est pour ça qu'on n'a pas soutenu la thèse, parce que je me suis dit, on a fait le livre, ça ne servait plus à rien, on n'a pas soutenu la thèse. Et après, j'étais la soutenance de ma femme, et je me suis rendu que ce n'était pas rigolo.
La soutenance de thèse,
et je me suis dit, moi j'aurais pété les plombs, je crois que j'aurais engueulé, c'était vraiment pas sympa. Si moi, ils m'avaient fait ce coup-là sur les lions, j'aurais pas né. Quoi qu'il en soit, d'abord, j'ai construit ma maison en bois, moi-même, avec mes amis africains, et j'ai adoré faire ça. Construire sa maison, c'est très symbolique, c'est très fort. C'est un peu faire ton nid, quoi, tu vois, dans un endroit incroyable où passaient les animaux toute la journée autour de nous. Et là, ce que j'ai vécu, c'était fort. Et là, j'étais très heureux. Très heureux. Disons que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux. Tout le rêve absolu, tu es photographe animalier, tu es amoureux, tu vis dans un endroit inouï, tu vis avec des animaux sauvages. C'est-à-dire que ma famille était mélangée avec la famille des autres animaux. Les familles de lions, on les connaissait tous, ces animaux, parce que les voyait tous les jours. Les girafes, les lions, les éléphants, on connaissait les animaux. Donc, une espèce d'harmonie naturelle qui s'est faite là-bas. Et je dis souvent, et là j'suis en train d'essayer de créer près de chez moi ce qu'on appelle du rewild, sur une trentaine d'hectares que je viens d'acheter. Et je trouve que j'adorerais que les cerfs et les biches qui vivent dans la forêt aient ce même rapport que moi j'ai eu au Kenya. Un animal sauvage, c'est pas un animal qui a peur de l'homme. Un animal sauvage, c'est quelqu'un qui, un animal qui considère l'homme non pas comme un danger, alors qu'aujourd'hui, tout animal sauvage, dès qu'il approche de l'homme, il a peur. Que ça soit un rat, un moineau, un goéland, les goélands un peu moins, mais les animaux, et là je mets des pièges par exemple chez moi, et je vois qu'il y a des blaireaux, des renards, les animaux que je ne vois jamais, avec les pièges photos, j'arrive à les voir. Les animaux sont terrorisés par l'homme, et j'aimerais retrouver, alors c'est un rêve complètement utopique, retrouver cette harmonie que j'ai connue au Kenya, à tel point que j'avais envie même de mettre des cerfs et des biches dans le bois de Boulogne. Et donc j'ai monté un projet, j'en ai parlé à Hidalgo, qui m'a dit oui, bon, ça va être compliqué, parce que bien sûr, des cerfs et des biches, les bagnoles, c'est les assureurs les premiers, ce qui est dit Guiral, parce que ça peut faire des accidents. Mais est-ce que le bois de Boulogne, ce serait pas extraordinaire d'avoir des cerfs et des biches dans le bois de Boulogne et
Vous n'avez pas aimé du coup les premières photos du confinement où on voyait justement des cerfs et des biches rentrer dans les villages?
Mais pas tant que ça. Il y a eu des sangliers qui sont rentrés, parce que c'est un sanglier d'animal, mais pas tant que ça. Ça devrait être quelque chose de normal et au quotidien. On doit voir des chevreuils, des cerfs, des sangliers se promener autour de nous. Alors on m'a dit, oui, tu comprends, ils vont aller sur le périphérique, moi, j'adorais voir des cerfs et des biches remonter. Il y a une ville au Japon, formidable.
Mera, où tu as...
Non, c'est un autre nom. Je me souviens plus où tu as les cerfs et les biches qui sont avec les bagnoles. Mais c'est extraordinaire. Quel pied pour les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté de l'animal sauvage. Et c'est très, très important pour d'être élevé. Enfin, moi, cette période du Kenya, j'ai adoré. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai appris bien sûr la patience, peut-être certainement c'est une période qui m'a, dans tout ce que je fais aujourd'hui qui est important, c'est-à-dire cette beauté évidente, naturelle, qu'on ne voit plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un chêne dans un champ? Il n'y a rien de plus beau que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de voir un cerf courir devant toi dans la forêt ou qui s'arrête et qui te regarde? Moi ça m'émeut aux larmes.
C'est quoi justement votre rapport à la beauté? C'est quelque chose que vous avez découvert par exemple au Kenya ou quelque chose?
C'est quelque chose que j'ai compris dès que je suis arrivé là-bas dans l'Allier, où j'ai adoré les animaux, la vie sauvage. Et surtout, j'ai été très heureux là-bas sans le savoir. Et je me dis souvent, quand tu es heureux,
tu le sais pas.
il faut s'en rendre compte. Parce qu'après, tu dis merde, j'ai passé à côté. Parce que les moments malheureux, tu t'en souviens toujours. Les moments où t'as souffert, où t'as pleuré, tu t'en souviens toujours. Mais les moments où t'as été heureux, souvent tu n'en profites pas assez. Et donc ça, c'est voilà. Et quand j'étais là-bas, bon, on a travaillé tous les jours, on faisait des photos de Lyon, tous les jours j'étais un peu obsédé, on suivait cette famille de Lyon. Enfin, quand on faisait une étude comparative entre les lions, une étude qui avait été faite dans le Serengeti, et les lions qui vivaient dans le Maasai Mara, la nourriture était différente, les rapports avec les autres animaux étaient pas la même chose. Surtout nous, on vivait dans un endroit où il y avait beaucoup d'animaux. Quand il y avait la migration des gnous, ils avaient trop à manger, et pendant des moments, ils n'avaient pas assez à manger. Donc beaucoup de lionceaux mouraient de faim, quoi. Tout ça, c'était assez passionnant d'étudier cette famille de Lyon. Et on était très attachés, on les connaissait par cœur. Il y a un côté anthropomorphisme, tu vois. Mmh. Et c'est Jane Goodall qui m'a donné envie d'aller là-bas. Jane Goodall, qui était une femme formidable, qui avait étudié les chimpanzés, qui leur avait non pas donné des numéros, mais des noms, ce qui était très nouveau, et qui avait fait un livre, Les chimpanzés et moi, et je rêvais de faire la même chose. Voilà, donc... Et c'est vrai que pour gagner ma vie, je reviens à ta question tout à l'heure, j'étais pilote de montgolfière. Quand tu dis que je passe pas à côté de ma chance... Je m'aperçois en allant là-bas parce que personne va me financer mes études. Un mec de 30 ans, voilà.
Voilà,
ah, bien sûr, c'est pas rémunéré. Il y a personne, aucune université qui a donné de l'argent à Yann Arthus-Bertrand, qui était un cancre absolu pour faire qu'il veut devenir scientifique, comme s'il était capable de devenir scientifique, tu vois. Donc, je vois qu'il y avait des Français qui avaient monté une boîte de montgolfières, de emmener les touristes en ballon, et je me dis, ce serait un boulot génial pour moi. Moi, j'étais pilote avion, je vais les voir. Alors c'est inouï parce que nous on cherche des pilotes. Les pilotes ils sont là pendant un mois, deux mois, après ils s'emmerdent dans la jungle, ils sont loin de tout, de leur famille, ils veulent rentrer. Et puis moi je me signe un contrat avec vous 3 ans. Donc j'ai signé un contrat avec eux, ils m'ont payé ma formation de pilote professionnel. J'ai même passé ma licence professionnelle de pilote d'avion pour pouvoir avoir, parce que c'était compliqué pour pouvoir voler à Nairobi. Il fallait que je sache comment atterrir à Caen. Enfin je te passe les détails, c'était assez compliqué. Voilà, surtout en anglais, moi qui est pas très bon, très très bon en anglais. Et voilà. Et donc j'ai passé ma licence et j'ai fait des, je crois, 500 heures de vol sur des gros montgolfières avec des gens que j'emmenais voir les animaux. Ça fait partie encore aujourd'hui au Kenya de quelque chose de très touristique.
Mais vous avez un rapport à la peur assez inexistant, non? Je veux dire, partir faire des câlins à des lions, prendre des montgolfières sans savoir vraiment les...
Non, mais j'ai alors je dirais pas ça. Je dirais que j'ai un côté... moi j'ai vécu des moments très difficiles, très très forts, de danger. Et je suis pas inconscient, mais... en fin de compte, j'ai pas très peur de de se mettre en danger. Il y a une espèce d'excitation que j'aime bien, qui est peut-être plus forte que la peur de la mort. C'est pas, et je suis quelqu'un, alors c'est drôle, j'en parlais il y a ce matin avec quelqu'un, je suis pas du tout terrorisé par la mort, pas du tout. Et j'écoutais le papier d'Albert Kahn en ce moment qu'on entend beaucoup, qui est assez formidable, quoi, tu vois, de profiter de ces instants. Et je pense que ce qu'il dit, il a raison, quoi, profiter de la vie pleinement, quoi. Et on va tous mourir. On en parlera tout à l'heure, ce que m'a dit une malgache. Mais faire la montgolfière, c'est pas très dangereux, attention. Non.
Mais bon, c'est avoir peur de s'engouffrer sur des nouveaux terrains, de partir.
Quand t'as pas le choix, que ça te permet d'exister, de faire ce que tu aimes. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours pris des risques. Et je pense que tu ne peux pas, dans la vie, réussir sans prendre de risques. Ça n'existe pas.
Et vous pensez que ça apporte quoi, du coup, ce qui a un peu guidé beaucoup de votre travail après, la hauteur de vue qu'apporte voir les choses d'en haut?
Voir les choses d'en haut, tu l'as dit le mot, c'est ça, tu prends du recul sur les choses. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, tout le monde sur son téléphone a la photo de sa maison vue d'en haut. Ça a changé complètement. Aujourd'hui, par Google Earth, tu vois tout le monde d'en haut, tout le monde le sait par cœur. À cette époque-là, c'était très, très nouveau. Moi, quand je fais mon premier bouquin sur Paris, vu du ciel, en rentrant du Kenya, c'était une découverte pour beaucoup, beaucoup de gens. Tu vois, l'alignement des maisons, les îles qui étaient si marquées au milieu de cette ville extraordinaire. Voilà, donc, et surtout quand tu fais une étude sur les animaux, photographier le territoire, c'est ce qui est le plus important. Tu vois, à quel moment ça s'arrête. Donc, c'était primordial pour moi d'avoir ces photographies aériennes. Et ça m'a montré aussi l'importance de la photographie aérienne. Et puis aussi l'importance de la beauté du monde vue d'en haut, parce que d'en haut, les choses très graphiques. Il y avait un photographe formidable, c'est George Gerster, qui était un Suisse, qui est un peu plus vieux que moi, qui avait fait un livre sur l'architecture, sur l'archéologie vue du ciel en Iran, en Égypte. J'étais très impressionné par ce bouquin et il était très dans le graphisme aussi, lui aussi. Et donc moi, j'ai adoré ça et donc tout ce que j'ai fait en termes du ciel, il y a souvent beaucoup de graphisme, c'est très important.
Et puis c'est vrai qu'en archéologie, il y a des choses incroyables qu'on a découvertes.
Voilà, exactement. Et par photos satellites aussi. Et puis même les photos satellites n'existaient pas à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, quand tu parles de déforestation, les photos satellites sont bien plus parlantes que les miennes, parce qu'on voit le territoire qui est réduit, puis on voit les années précédentes.
Vous connaissez le projet Blue Tern ?
Blue
Tern,
petite application.
Jean-Pierre Gou, oui, qui a lancé cette chose, parce que lui, il est persuadé que si les gens voient la Terre en temps réel tourner, parce que c'est des
j'ai l'application,
de la NASA,
mais le problème, c'est quand tu l'as regardé 3-4 fois, après, tu...
Ça ressemble quand même à la Terre, ressemble à la Terre, mais... Voilà, il est persuadé que les gens prendront conscience de la fragilité de la planète avec cette image.
Mais, je ne crois pas trop, ça, malheureusement.
Vous parlez peut-être d'expérience aussi.
Oui, un petit peu. Non, mais... Tout ce qu'on peut faire pour faire avancer la prise de conscience, et je ne vais surtout pas le critiquer. Je suis bon pour tout. Oui. Voilà.
À l'époque où vous étiez photographe, journaliste, reporter, tout ce boulot un peu de rêve que vous avez mené pendant des années, au début des années 80, est-ce que la conscience écologique arrivait un petit peu ou est-ce que c'était quelque chose qui restait quand même bien loin de vous ?
La conscience écologique que j'ai toujours eue, par tout ça, n'était pas toute la même conscience que j'ai aujourd'hui. Mmh. Hein, vous avez vu Legacy, donc on en parle très bien, mais aujourd'hui, avant, je parlais de déforestation, je parlais de sauver les rhinocéros, les éléphants, le braconnage. On n'était pas du tout dans ce qu'on... Aujourd'hui, en France, l'écologie, c'était un peu le jardinage. Hein. C'était un peu, le vert dans les villes. C'était un peu très, très loin de ce qu'on... On ne parlait pas comme aujourd'hui de la catastrophe annoncée. Quoi.
On avait l'impression d'avoir le temps, surtout.
Ouais, non, puis c'était quelque chose, en plus, qui était... C'est le monde de la croissance.
On parlait tout à l'heure d'un cheminement personnel qu'on voit bien, donc en filigrane dans Legacy, votre dernier film de ce dont on parlait. Vous dites, pendant les 4/5 de ma vie, ça... J'ai pas pris conscience de l'urgence écologique. Est-ce que vous avez des souvenirs d'étapes clés, de moments traumatisants ou pas forcément
non,
traumatisants
C'est-à-dire que très longtemps, jusqu'en pratiquement 2008-2009, j'ai cru qu'on allait pouvoir inverser la tendance. J'ai cru que quand je prenais mon hélicoptère, que je compensais mon carbone, que je fais depuis toujours, ça allait améliorer les choses. J'ai cru que en devenant végétarien, on allait améliorer les choses. J'ai cru que on allait tous. Quand j'ai vu le film d'Al Gore, ce qui était très très fort, je me suis bien aperçu à ce moment-là que il y avait une vraie. J'avais des gens autour de moi qui pleuraient. À un moment où ils montent sur un escabeau et on voit le carbone qui monte. J'ai vraiment cru qu'on allait changer le monde, quoi. Et c'est dans les années, sans doute après les... Moi, comme j'étais ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies, comme j'ai une fondation, j'ai été dans beaucoup de COP, puis je me suis aperçu un moment que ça servait à rien, quoi, et qu'on avance absolument pas. Donc, la vraie prise de conscience, il y a 4-5 ans, je me suis aperçu que tout ce qu'on faisait, c'était très très loin de ce qu'on devait faire. Et donc, et c'est angoissant de penser que les scientifiques te parlent. Je me souviens très bien d'avoir lu la une du Monde. On devrait tous avoir cette une de Monde placardée chez nous, où tu as 20 000 scientifiques qui parlent de la sixième extinction. Mmh. 20 000 scientifiques, c'est pas un petit chiffre, tu vois, c'est des gens qui ont étudié, qui ont travaillé. On sait que quand un scientifique cite quelque chose, ça a été vérifié, survérifié. C'est pas comme les ONG, c'est pas une pétition qu'on signe. Donc, si tu veux, du monde entier. Et voilà, et cette catastrophe annoncée, moi, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter.
Et justement, à l'époque, vous étiez parfois traité de tartuffe de l'écologie. Vous preniez comment à l'époque
J'ai toujours été attaqué. C'est drôle parce que quand j'ai fait la Terre vue du ciel, faut imaginer la Terre vue du ciel, ce travail où on part faire le tour de la planète pour expliquer la beauté du monde. Et puis là, tu comprends les. J'ai commencé ça en 92 à l'époque de la conférence de Rio. Et je suis très ami, moi, avec Salgado, le photographe. Mmh. Et j'avais très admiration devant. Il avait fait un truc qui s'appelle la main de l'homme, c'est le premier gros boulot, qui était un travail fini, quoi, qui était rond, avec un début et une fin. Et quand tu es photographe, tu fais toujours des trucs à toute vitesse, tu fais un truc 15 jours, une semaine après, tu en fais un autre. Tu as du mal à travailler sur des projets longs. Maintenant, les photographes le font, mais à cette époque-là, c'était la grande époque de la photographie aussi. Il faut savoir que la France, c'était le pays de la photographie. Mmh. Gamma, Sigma, Sipa, l'AFP, Magnum, On a envoyé nos photos dans le monde entier en DHL. Et véritablement, cette façon de travailler, j'ai pas très longtemps, je triais mes photos et j'ai fou le nombre de sujets que j'ai fait. Pendant 10 ans, j'en faisais un toutes les semaines, je faisais un truc différent. Tu vois. Donc on s'épuise un peu, tout est poli, on rentre pas à l'intérieur des projets, il n'y a pas les moyens, et donc quand j'essaie de faire la terre du ciel, alors c'était difficile parce que ça coûte très cher la photographie aérienne, bien sûr, l'organisation, il faut demander à tous les pays, donc on avait un parrainage à UNESCO, c'était vraiment un boulot d'entrepreneur, toi, de créer ça, et quand tu finis ça, t'es plus le même homme, t'as complètement changé. Et à cette époque-là, personne ne veut de mon livre La Terre du Ciel. Les représentants disent Hervé de la Martinière, mais vous en avez fait 35 000, vous rigolez, vous jamais j'allais pouvoir les vendre. Un jour Hervé m'appelle, catastrophé, en me disant Yann, les représentants, est-ce que tu m'autorises qu'on baisse le prix du livre? Est-ce qu'on va jamais pouvoir les vendre? 35 000, ça nous fait peur. J'écoute, on baisse le prix du bouquin. La seule condition, c'est que ça marche, on garde le même prix. Il m'a dit OK. Et voilà, par téléphone, et le livre a été un succès incroyable. Tout de suite, c'est les libraires. D'abord, le prix, très important. C'était un prix pas. C'est aussi le début de l'écologie, l'an 2000. Toi, c'est un livre qui est arrivé au bon moment. Et la chance que j'ai eue inouïe, c'est qu'aucun musée ne voulait me voir. Aucun musée. Je me souviens, il y avait le Dôme.
Pourquoi,
à Londres.
Par snobisme,
parce que je trouvais que mes photos étaient des cartes postales. Ils me disaient, d'ailleurs, c'est des photos couleurs, cartes postales. Il n'y a pas de sens. Alors, moi qui étais obsédé par le sens donné à mes images, que tu vois, les VD légendes épaisses comme ça. Parce que mes photos, elles n'ont aucun intérêt. Si derrière, tu n'apprends pas quelque chose d'important, t'es ému par la. Regarde derrière, tu as les posters qu'on a fait pour les ODD, donc on envoie toutes les écoles de France. Mais derrière, il y a un texte sur les gorilles, il y a un texte sur les paysans. Un test sur les réfugiés. Voilà, cette photo, elle est très belle, mais si derrière, il n'y a pas quelque chose, à quoi elle sert? Donc, j'étais un peu obsédé par ça. Personne ne veut mes photos. Il y a un grand musée à Londres qui était ouvert pour le Dôme, qui était pour l'an 2000. Il me dit, on vous a trouvé un endroit, c'est le couloir qui va aux chiottes. Je dis, mais c'est pas terrible. Du moins, tout le monde le verra. Je dis, d'accord, mais c'était pas terrible. Donc, je refuse de mal expo. C'était Ayagon il était chargé de la mission 2000. Je vais projeter mes photos. Il part pendant dans le bureau avec ma sœur comme un con en train de projeter mes photos. Et donc personne ne voulait. Moi, je voulais rêver de faire une grande exposition, comme tout photographe. Hein, on avait envie de montrer ce que tu fais. Et je trouvais que c'était un bon boulot. Et j'ai une chance inouïe, c'est qu'Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, qui dirigeait la photo au ministère de la Culture à ce moment-là, me dit tu devrais aller voir le Sénat. Ils ont un vieux musée, là, le musée de Luxembourg. Ils savent pas très bien quoi en faire. Tu devrais aller les voir. J'y vais. Maintenant, le musée est magnifique, mais à cette époque-là, il était complètement poussiéreux. Ils me font un truc génial, qui n'arrive jamais. Le directeur de la com du Sénat me donne un peu d'argent. Il me dit, voilà, on te donne les clés du musée, tu te démerdes. Tu l'assures, tu fais le ménage, c'est toi qui fais tout ce que tu veux. Et donc, je me retrouve avec un musée en plein Paris pour montrer mes images. Et donc, je fais gratuit, comme j'en ai beaucoup de livres. On fait gratuit. J'adore faire des choses gratuitement. J'adore qu'il n'y ait pas de commerce quand tu as des convictions. J'adore, et j'essaye en tout cas de le faire. Et là, on a une histoire fantastique. Et au bout de 3 mois, une autre exposition devait arriver. Et donc, on invente les expositions dehors. Et je dis au Sénat, est-ce qu'on peut les mettre dehors rue de Médicis? Ils disent OK. Tu le fais, mais on n'est pas responsable. Et des photos vont être volées, taguées. Et j'ai fait 200 expositions dans le monde. J'ai jamais eu de photos pratiquement taguées ou volées. Donc, et le succès a été inouï. On a eu 2 millions de personnes qui l'ont vu en France. Et immédiatement, j'ai été attaqué par tous les journaux intello, quoi. C'est-à-dire le Monde m'a fait une. On parlait que d'argent, tu vois. Et même encore aujourd'hui, là, quand j'ai fait Human, qui est pour moi un film formidable. Alors c'est vrai qu'on trouve les moyens, qu'on a là, on se démerde de l'argent, mais et je me souviens du papier dans le Monde qui était l'empire de Yann Arthus Bertrand. On parlait que d'argent, quoi, comme si je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, tu vois. Moi, j'ai des gros budgets, je travaille. Et donc, voilà. Maintenant, ça change un petit peu. Peut-être un petit peu, mais.
Oui, dans le dernier papier du Monde, c'est. Yann Arthus Bertrand est modeste dans son dernier film. Ça me plaît beaucoup.
Ouais, mais tu sais. Mais. Alors, c'est vrai que j'étais sûrement pas modeste, souvent. Quand tu fais un travail comme La Terre vue du Ciel et que t'as des millions de personnes qui viennent voir ton exposition, t'as du mal à être modeste. Je reconnais. Ton ego en prend un coup. Mais. Moi, j'aime les gens. J'adore que les. Tu vois, j'ai adoré parler avec les gens. J'étais tellement accro. J'ai passé 3 mois assis sur une chaise à signer des livres, non pas pour vendre des livres, mais pour parler aux gens. Parce que quand t'es photographe, tu connais pas les gens qui voient tes photos. D'un seul coup, je voyais les gens. Puis moi, à rue de Médicis, je me souviens très bien d'un vieux monsieur qui arrive et qui me dit :« Vous êtes le premier livre que j'achète de ma vie. » C'est génial quand quelqu'un me dit ça, tu vois. c'est magique, quoi. Donc voilà.
Bon, en tout cas, j'ai eu le petit et le grand chez moi. Je les connais vraiment par cœur.
Ouais, mais on en a vendu 4 millions. Ouais. C'était incroyable. Et ça, ça a énervé tout le monde. Ça a énervé, bon, pas tout le monde, j'exagère. Photographe populaire, public, tu vois. Et maintenant, ça change. Ça change. Quand j'étais élu à l'Académie, on a été démoli par Depardon qui a fait un papier pas sympa. Bon, toi, bah c'est la vie, c'est la vie, c'est pas grave.
Et quand on croise avec Depardon, on se croise après avec Depardon, on dit salut, salut
Raymond. Ah ben non, mais on se connaît bien. Non, mais on se connaît, mais
salut Raymond, salut
non,
Yann,
mais il y a plein de gens qui ont dit des choses pas très sympas sur moi et je peux t'en faire la liste. Mais
Est-ce que c'est des critiques maintenant que vous entendez d'un autre œil
complètement, parce qu'aujourd'hui, je pense que le combat est bien plus important que ça. Je peux être très con, j'ai fait des conneries, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, je peux être trompé. Mais sincèrement, j'ai toujours essayé d'être sincère et d'être honnête.
Parmi les histoires folles de Yann Arthus-Bertrand, qui n'est pas que ami intime avec des lions et que j'ai pas pu vous raconter ici, il y a celle qui lui est arrivée sur le Paris-Dakar qu'il a suivi pendant plus de 10 ans, dont il reconnaît quelques défauts mais qu'il défend. L'hélicoptère dans lequel Daniel Balavoine, mais aussi le fondateur du Paris-Dakar Thierry Sabine, qui était un ami de Yann Arthus-Bertrand, est mort, et ben il aurait dû être dedans. Il a laissé sa place à Balavoine au dernier moment. Et comme il était sur la route, il n'a pas su tout de suite ce qui s'était passé. Il a aussi complètement ignoré que tout le monde l'avait cru mort, sa famille y compris, pendant une douzaine d'heures. Il nous dit qu'il n'y a pas vu un signe du destin, il a surtout perdu un ami. Comme je le disais précédemment, depuis une dizaine d'années, Yann Arthus-Bertrand s'attache à documenter le rapport entre l'homme et sa planète et à donner à voir l'humain en ce qu'il a de plus universel. Avec le film Human, donc, mais aussi avec le projet 7 milliards d'autres, qui est un projet collaboratif que je vous invite à découvrir.
Et alors justement, quand on interviewe un éventail aussi large d'humains dans autant de cultures différentes, qu'est-ce qui ressort ? Enfin, qu'est-ce qui est au-delà de toute différence culturelle, religieuse ?
Mais si tu veux, quand tu t'intéresses aux gens... D'abord, je travaille beaucoup avec des activistes, des gens qui donnent, des gens qui... J'aide une bonne sœur, c'est un orphelinat à Brazzaville. Je suis toujours attiré par les gens qui font. Les gens qui sont meilleurs que toi, qui partagent, je vais vers eux, ça m'intéresse. Et j'essaye de... Si je peux ce que je peux faire, j'essaie de le faire. Et donc... Il y a une chose qui est essentielle, et c'est qu'on a tous peur de la mort, on veut tous une meilleure vie pour nos enfants, on a tous une empathie naturelle profondément autour de nous. Même le mec le plus antipathique, quelque part, il a été aimé par sa famille, il est capable de donner de l'amour. C'est quelque chose qui, pour moi, est très fort.
L'amour, justement.
Non, ouais, finit. Oui, parce que je pense que l'amour est la plus grande force en nous. Regarde, le courage des mères, par exemple. Des femmes sont prêtes à tuer pour leurs enfants. Elles sont prêtes de tout faire pour protéger leurs enfants. Rarement les femmes n'abandonnent leurs enfants. C'est rarissime. Et quand tu vas dans les camps de réfugiés, tu vois des femmes avec 4 enfants qui traînent, qui ont rien à manger, qui se battent, qui vont faire la queue pendant des heures pour nourrir leurs enfants. Et c'est ça, ce sentiment d'amour-là, il est très fort. C'est ça qui peut nous faire avancer, qui peut nous sauver, tout simplement.
C'est Hubert Reeves qui en vient à peu près à la même conclusion que
parce qu'on
ne
sait pas quoi dire d'autre, peut-être.
On a interviewé il n'y a pas longtemps, mais l'empathie. Lui, il parle d'empathie. Il dit que c'est une force qui est de plus en plus forte.
Mais plus ça va, moi, plus j'aime les gens. Même les gens qui m'attaquent, ça me dérange, c'est pas grave.
Et alors, quand vous avez été refusé avec Legacy, justement, parce que c'est un film qui parle quand même de
fin du monde...
Est-ce qu'on est un peu désespéré quand on essaye de faire entendre quelque chose, l'urgence de la possibilité d'agir ?
Tu sais, c'est drôle parce que même encore aujourd'hui, sur les prochains projets qu'on a, les gens te disent tous, faut pas être pessimiste. Comme c'était... Et être pessimiste, c'est quoi ? C'est être optimiste, c'est d'être un imbécile heureux. Voilà, et pessimiste, c'est un imbécile malheureux, quoi. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste, mais tout en regardant un optimiste inquiet, quoi, tu vois. Et il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, quoi. C'est ce que dit Greta d'une façon formidable. Et Greta, tu vois, comme elle souffre quand elle parle, parce qu'elle se rend compte de ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas des mots. Quand elle parle de la fin du monde, de cette fin du monde qu'on est en train de préparer, elle le sent, elle souffre de ça. Alors que nous, on le dit tous, oui, peut-être. C'est des mots qui sont pratiquement morts, qui n'existent plus, quoi. On a tellement entendu qu'ils ont plus leur vraie raison d'être. Et quand on le refuse aussi, peut-être que je l'avais mal vendu, je vais pas...
Non, mais c'est plus ma question de justement cette difficulté à regarder la réalité en face. Est-ce que, quand on essaie justement d'ouvrir les yeux aux gens, enfin, je sais, qu'est-ce que ça provoque ? C'est très frustrant, non ?
Mais de toute façon, frustrant, oui et non. D'abord, parce que tu as été responsable, toi, ta génération, de ce qui se passe. Donc, tu dois prendre ta part de responsabilité. Tu n'as pas la colère que peut avoir un gosse de 20 ans ou 17 ans aujourd'hui, à qui où le monde s'ouvre, qui dit voilà ce qu'est le monde devant vous. Tu regardes Legacy. Il n'y a pas très longtemps, on monte pas mal Legacy dans les écoles. Il y a une petite fille de 13 ans qui m'a dit mais monsieur Artus Bertrand, je déteste votre film. Mais je comprends, mais c'est affreux de dire ça à des enfants. C'est affreux de dire à des enfants que le monde de demain... Parce qu'ils ne sont pas cons, les gosses, ils ont bien compris qu'on va avoir du mal à changer, qu'on est incapable de changer, on est prisonnier d'un système. Alors comme nous, on n'est pas inquiets, ils ne sont pas trop inquiets, mais quand tu dis ça, c'est pas facile de dire à des enfants. Il n'y a pas très longtemps, j'avais été dans une école où j'avais présenté un film, et il y a un petit garçon qui me dit « Monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Alors ça m'a vachement choqué, tu vois, de la fin du monde, et puis ça, c'est émouvant quand un garçon de 13 ans te dit ça. Et je dis, mais moi, je crois pas à la fin du monde. Il dit, vous y croyez pas, vous êtes gonflé. Je viens de voir votre film, j'écoute la télévision, j'écoute mes profs, j'ai les journaux. Si vous croyez pas à la fin du monde, vous mentez. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient en la fin du monde. Ben, ça m'a pas fait rire. 70% des enfants ont enlevé la main. Des gosses entre 13 et 15 ans. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette génération-là, ils sont tous inquiets. Ils savent qu'il va se passer quelque chose. Alors... ils ont confiance dans les autres, ils se disent on va arriver à trouver la solution, mais ils savent, ils sont tous inquiets. Et moi, à mon époque, on n'était pas inquiets de l'avenir. On n'était pas du tout inquiets de l'avenir. On allait se débrouiller. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un mur devant nous qu'on va forcément avoir un moment. Alors, est-ce que ça va être de bientôt? Ça va être, mais on sait qu'il va être là. Et les enfants qui naissent aujourd'hui ne vivront pas dans le même monde que nous. Quand les scientifiques te disent que le climat qu'on a connu pendant 20 000 ans est parti à jamais, c'est épouvantable d'entendre ça. C'est-à-dire que le climat dans lequel on va vivre maintenant est dû à ma génération. C'est pour ça que moi, souvent, je dis pardon, tu vois. On ne savait pas, mais on est responsable. Et c'est pour ça que c'est à nous de changer d'abord. C'est pas demander aux enfants et aux Greta de porter le poids du monde. C'est à tous les vieux cons que nous avons été et qui avons tous les bébés boomers, quoi. C'est nous qui sommes responsables. Et je pense qu'on ne le prend pas assez en.
Il y a pas beaucoup. Il y en a beaucoup même qui n'ont pas envie de prendre du tout cette responsabilité.
Oui, mais tu sais. Bon, bah, de toute façon, c'est vrai qu'on est encore très peu. Tu vois, quand dans mes conférences, j'en fais souvent des conférences à la Fondation Blue Planet, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est très important, où je dis, voilà, quand il est arrivé, j'ai fait une photo de l'arrivée de la Coupe du Monde à l'Étoile, et je suis en haut sur l'Arc de Triomphe, et toutes les rues sont noires de monde. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de rues, on voit que du monde de chaque côté. C'est super impressionnant. T'as 2 millions de personnes qui sont là. Mais quand on sera 2 millions de personnes à manifester contre le changement climatique? Tout le monde sera là, mais là, le monde changera. Aujourd'hui, on est 20 000 à Paris ou 30 000 à Paris, comme pour la marche pour le climat, et on est content. Mais 30 000, c'est un échec. On devrait être des centaines de milliers.
Moi, par exemple, c'est des sujets que j'ai beaucoup suivis. Depuis 2016, la collapsologie, j'ai tout lu, etc. Et puis après, j'ai eu un enfant. Et depuis, je suis dans le déni total. C'est-à-dire que je refuse de lire, je refuse de m'y intéresser, je refuse de voir. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple?
C'est normal. Je sais pas, je vais dire là-dessus, mais ça reviendra.
Ça reviendra, ouais. Quand je le verrai grandir. Vous vouliez parler de la Fondation Good Planet?
Oui, parce que on a créé un endroit formidable dans Paris. Grâce à la mairie de Paris, on a un petit château et 3 hectares qui est près du pont de Suresnes, et c'est un endroit que j'adore. Où gratuitement, c'est important. Où on reçoit les gens pour parler d'une écologie humaniste. On va aussi bien parler de comment faire une cuisine responsable, on va parler du changement climatique, et on va voir des dérèglements climatiques, on va parler des abeilles, il y a des films qui vont essayer, des conférences, de la musique, mais on va aussi parler des réfugiés. Parce que moi je pense que l'écologie, elle doit aimer les gens, aimer les autres. Une écologie humaniste n'a pas sa place. Voilà, et donc on a ramené 2 bateaux de réfugiés qu'on a récupérés grâce à SOS Méditerranée, des bateaux en bois qui allaient être cassés, pour parler du problème des réfugiés. Et nous, on est très proches des réfugiés. On continue à aider des réfugiés qu'on a rencontrés par humain. Je ne vous raconte pas notre vie, mais on est très proches des réfugiés. Et on aide beaucoup une bonne sœur qui habite à la porte de la chapelle, qui reçoit des réfugiés tous les jours, qui reçoit 500 toutes les semaines. Donc tu vois qu'on aide beaucoup.
Voilà. Parce que le réfugié et le changement climatique, de toute façon, ça va aller de plus en plus.
Mais tu sais, il faut savoir que dans le monde, les gosses que je connais qui vivent à Brazzaville, ici très pauvres, hein, ils ont des téléphones, ils vont dans les cybercafés, et ils t'appellent en Viber, ils t'appellent en WhatsApp. Donc ces gosses, ils savent tout, ils connaissent le monde, hein. Ils savent ce qui se passe, ils savent très bien quel est le salaire, quelle est la retraite, quel est le prix d'un billet d'avion, quel est le prix des restaurants, ils le savent très bien. Et ils savent aussi les lois sociales, où l'éducation est gratuite, où il y a la santé, où il y a la démographie, il y a du travail. Quand tu vis dans un pays où il n'y a rien de tout ça, t'as qu'une envie, c'est de vivre là-bas. Et nous, on commence un film sur les réfugiés en ce moment. Mais quand t'entends les réfugiés qui partent dans des camions, à 200 dans un camion, qu'on lâche en plein désert et qu'on fait marcher, vous allez par là, vous débrouillez. Ils buvaient par jour un verre d'eau avec un peu de pétrole pour pas avoir soif. Ils boivent de l'eau et du pétrole pour avoir soif. Ils arrivent en Libye. Et quand tu sais qu'en Libye, 100% des femmes sont violées, et les gens, ils ont tout perdu. Ils sont partis avec de l'argent, on est en train de leur piquer leur argent, les fouilles pour trouver leur fric, parce qu'ils ont tous de l'argent planqué pour pouvoir payer les passeurs. Et ce qui est formidable, alors on a une réfugiée qu'on connaît très bien, elle m'explique que quand ils sont en Libye, ils sont là dans des camps, c'est les prisons, c'est épouvantable ce qu'ils vivent, eh bien ils partagent tout leur fric entre eux. Si t'as de l'argent, tu payes pour la personne d'autre. Et ça c'est génial, tu vois, l'entraide, l'empathie. Et après tu pars sur des bateaux. Et quand tu lis, je suis en train de lire le bouquin de SOS Méditerranée, Antoine, je ne sais plus son prénom, et qui te raconte que, rien que d'en parler, t'as les larmes aux yeux, où tu sais, ils savent qu'il y a un bateau qui est perdu. Ils le cherchent, et au bout de 2 jours, ils le trouvent, la nuit, ils arrivent, et t'as un énorme bateau en caoutchouc, où il y a 200-300 personnes dessus, ils sont tous autour, t'as les gens hagards autour, et tous les gens au milieu sont morts. Et t'as les survivants qui sont sur le côté hagards, qui peuvent même pas parler. Et quand ils approchent du bateau, ils n'ont même pas le courage de les appeler. Ils sont tellement comme des... Quand tu lis ça, mais tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
Et pendant ce temps-là, le climat politique en France, à ces propos-là, devient
oui,
compliqué.
Mais si tu veux, c'est... De toute façon, l'histoire de Ceuta, il n'y a pas longtemps, où 2000 Marocains ont passé la frontière pour aller dans cette enclave espagnole, je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé, et qu'un jour, il y a des gros bateaux qui arriveront, et des milliers de mecs qui arriveront sur la plage et qui descendront. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là ? On aura l'armée ? On ne pourra pas le faire. Je pense que la grande crise migratoire n'a pas commencé, et il faut s'y préparer. Et c'est normal, c'est le ronde infernal. On est tous des enfants de réfugiés quelque part. Je sais pas comment tu t'appelles et comment tu viens, mais on est tous des enfants de réfugiés. On a tous des familles qui viennent d'ailleurs. On va chercher, c'est la ronde infernale d'aller chercher une meilleure vie ailleurs. Et malheureusement, il faudra apprendre à partager, parce que nous, on vit dans un monde où on a trop. En tout cas, moi, particulièrement, j'ai trop. Il faut que j'apprenne à vivre mieux avec moi et savoir partager. C'est pas facile à faire, mais je pense que il y a pas d'autre solution.
J'ai quelques questions à vous poser sur la vieillesse, Yann Arthus-Bertrand. Vous vous occupez de votre femme, j'imagine, qui est atteinte de la maladie Parkinson. Je sais que je l'ai dit au tout début. Moi, je connais moi-même cette maladie de très près. C'est une maladie dégénérative.
Je m'occupe pas assez bien de ma femme. Je dois reconnaître que je suis pas le mari idéal.
Ça rend la vieillesse difficile, compliquée.
Oui, plus pour elle que pour moi, oui.
Et c'est le genre de maladie dont les gens ont peur, hein. Je pense que c'est ce genre de... Pour eux comme pour leurs proches. Comment, justement, vous vivez avec vous ?
Très envie d'en parler, mais...
J'imagine, mais je pense que c'est vraiment le genre
de... Ma femme a été opérée et ça a changé son caractère, Et je suis pas quelqu'un de très attentionné, je suis pas quelqu'un qui était très, très à l'écoute. Donc ma femme m'a quitté il y a 2 ans. Elle vit à côté, mais on se voit tous les jours. Donc on est resté assez proches. Mais elle avait besoin de se libérer de moi. Elle supportait pas que je rentre tard le soir. Elle supportait pas que je m'intéresse plus à elle. Voilà. Je continue à le faire à ma façon, mais je culpabilise un petit peu là-dessus.
D'accord. Voilà. Est-ce que ça donne quand même un autre rapport au temps?
Oh, quand t'as 75 ans et que tu vois des gens autour de toi qui sont malades, et bon, tu as plus la niaque que t'avais quand t'avais 50 ans, par exemple. Quoique je l'ai encore pas mal, mais t'as de faire réfléchir autant. Mais sincèrement, d'abord, je suis un obsédé du sens de la vie. Tu vois, qu'est-ce que tu donnes comme sens à ta vie? Pourquoi t'es là, quoi? À quoi tu sers? Depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, je suis un peu... Alors, c'est pas prétentieux de dire ça, je pense pas. Je pense que tout le monde a le droit de donner du sens à sa vie et d'être content de ce qu'il fait. Moi, il se trouve que je suis plus exposé, que je fais de la télévision, de la radio, tu viens m'interroger, mais il y a des gens autour de toi, les infirmières à l'hôpital, on en connaît tous, quoi, des gens qui font bien plus que toi. Et puis, moi, j'essaye de promouvoir le développement durable, mais il y a des gens qui sont boulangers, qui sont architectes, qui le font aussi bien que toi. Donc, je vais pas me mettre en avant. Mais réussir sa vie d'homme personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Et je dois reconnaître qu'en vieillissant, plus encore, je fais des choses... Moi, j'ai ma tante qui a 102 ans, que j'adore. Il n'y a pas très longtemps, je vais la voir dans sa maison de retraite. Je ne vais pas la voir assez souvent, c'est compliqué d'aller la voir en ce moment. Hein. Et j'arrive et c'est une maison de retraite, c'est pas gay, ça sent le pipi, t'as des couches partout, t'as des gens quoi, Alzheimer, quoi. C'est vraiment horrible, quoi. Et donc, t'as, horrible. Oui, c'est en profond. Quand tu vas là-bas, tu dis, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et je rentre dans sa chambre et elle a toujours un grand sourire. Je dis, mais comment tu fais? Pour chaque fois que je viens, t'as le grand sourire. Elle me dit, mais Yann, c'est pas difficile. Je pense pas à moi, je pense aux autres. Et le fait de pas te concentrer sur toi, de penser aux autres, de ce que tu peux faire, ça peut te rendre plus heureux. Alors, je suis pas du tout la personne idéale, mais j'essaye. J'essaye, en tout cas. Et moi qui me suis beaucoup regardé le nombril très longtemps, j'essaye d'en regarder un peu plus haut maintenant, voilà. Et en vieillissant, je fais de plus en plus. Et j'adore. Et j'aime. J'aime ça.
J'ai une dernière question. Est-ce que c'était mieux avant? Je vous pose pas la question. Ah si, bah, pardon.
Non. D'abord, est-ce que c'est mieux avant c'est mieux avant quand t'étais beau, jeune, et que t'étais pas malade et que tu avais la pêche et que voilà, c'est toujours mieux avant quoi quelque part. Mais quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de donner du sens à sa vie. C'est quelque chose, je me posais même pas la question quand j'avais 20 ans. Je travaillais, j'aimais ce que je faisais, la route était tracée. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la pauvreté, avec le monde tel qu'il est, c'est quand même pas très difficile de donner du sens à ta vie, de dire, est-ce que le travail que je fais est utile? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis content d'être là? C'est une question qu'on peut se poser, ça, voilà. Et moi, je suis un privilégié, c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre aux autres, mais j'ai eu la chance, moi, tu vois, de choisir la vie que j'ai. Mais je n'aime pas dire ça, parce qu'il y a des gens qui me disent « il est gonflé, il est... » Oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Voilà.
Et est-ce que vous avez peur de la mort? Je connais la réponse. Vous n'en avez pas peur du tout de la mort, mais vous alliez me citer quelqu'un tout à l'heure.
Oui, parce que je cite souvent ça. Quand on a fait Human, on interroge les gens, tout le monde autour du monde, et on pose toujours les mêmes questions. Alors, bien sûr qu'on va voir un paysan malgache, on va parler de sécheresse, mais quand même, il y a les mêmes questions, qui sont toujours les mêmes au début. Il y a une question qui est importante: quel est votre plus grand rêve? Et cette femme malgache qui parle un dialecte compliqué, tu vois, dit qu'est-ce que c'est qu'un rêve, tu vois, je sentais qu'elle comprenait pas bien, alors elle me parle de la mort de ses enfants. On lui dit non, ce que vous pensez vous en tant que femme, quoi, quand être humain. Et elle me regarde droit dans les yeux, elle parle avec sa copine en rigolant, et elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit un truc à laquelle je pense tous les jours. Elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et je trouve ça tellement intelligent, tellement malin. On va tous mourir un jour. Et mourir avec le sourire, c'est-à-dire qu'il faut accepter la vie que tu as eue, accepter ta mort et partir en disant « j'ai fait ce que j'ai pu ».
Merci beaucoup Yann-Arthur Bertrand.
Salut.
Salut.
Un grand merci à Yann-Arthur Bertrand pour ce moment. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galligani. Réalisation, coordination et prise de son, Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.